vous avez vu qu'il y avait une caméra qui se promenait au milieu de nous et avait dit oui, c'est nécessaire parce que ce qui a été filmé va être mis sur le site. Tout ça va contribuer à nous rendre beaucoup plus visibles sur le site et puis les réseaux sociaux. Hein. Ceci dit, s'il y a quelqu'un qui ne voulait pas être vu sur ce film, eh bien, il suffit que vous précisiez. Hein. Vous allez voir le pasteur Marc et puis vous lui dites, tu sais, moi, je pourrais raison X, ça ne nous regarde pas. Hein. Eh bien, je ne souhaite pas y être. Et dans ces cas-là, eh bien, on s'arrangera pour que vous passiez à TF1. Ok, alors, je laisse la place au pasteur Marc, et puis, entendons ce que le Seigneur a à nous dire.
Voilà. Alors, qui n'était pas là la semaine dernière ? D'accord, gardez la main levée. Parmi ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont pu écouter le message sur Internet, baissez la main. Donc, vous la gardez uniquement si vous n'avez pas écouté le message sur Internet. D'accord, ok, c'est pour que je vois un petit peu, je sache qui j'ai en face. Entendu. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé... Attendez, je vais me mettre un minuteur, parce que quand quelque chose me passionne, je peux vous garder jusqu'à ce soir, et c'est pas ce qu'on veut. Nous avons parlé d'un phénomène de société... qui s'appelle l'antispécisme. Certains en ont peut-être déjà entendu parler, et ceux qui n'en ont pas entendu parler ont généralement vu aux infos des images de boucheries qui avaient été caillassées, d'abattoirs auxquels on avait mis le feu, d'actions relativement violentes contre tout ce qui peut représenter, aux yeux des gens qui les pratiquent, une maltraitance animale. Et ce phénomène de société, vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église ? J'avais commencé à aborder le sujet la semaine dernière, on va le terminer aujourd'hui, mais nous avions vu notamment qu'un des facteurs communs, je dirais, à tous les gens qui agissent de la sorte et qui décident de penser de la sorte, c'est qu'ils n'acceptent pas l'idée que l'être humain puisse avoir été créé et puisse avoir été créé supérieur au reste de la création, en ce inclus les animaux. Et nous avons vu également, que ce qui était assez intéressant, plusieurs sources sur Internet que l'on peut trouver nous disent que c'est un anti-monothéisme. Également, j'avais précisé le fait que tous les gens qui veulent défendre les animaux ou améliorer le bien-être des animaux ne sont pas des casseurs. Ne sont pas des gens qui mettent le feu aux abattoirs. D'accord ? On a, ma femme et moi, par exemple, des amis qui sont végétariens. C'est assez bluffant, d'ailleurs, parce que quand on a été manger chez eux, on a été persuadé de manger de la viande, et ça n'en était pas. Mais pour autant, ce ne sont pas des gens violents. D'accord ? Ils ont leur point de vue, ils l'appliquent à leur propre vie, on peut même en débattre. Et je pense que s'il fallait voter, eh bien, ils vérifieraient ou agir de manière légale et conforme à notre société, eh bien, ils agiraient dans le sens de ce qu'ils croient. Mais pour autant... ils ne vont pas aller jusqu'à un extrémisme qui est un extrémisme violent. Bien, on a vu également que ce concept d'antispécisme, il a pour vocation de s'opposer à ce qu'ils appellent le spécisme, c'est-à-dire la croyance que oui, l'être humain n'est pas un animal, et que oui, l'être humain a été créé, et qu'il a été créé supérieur au reste de la création, que Dieu lui a donné une domination particulière, ce qui ne doit pas forcément, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit s'exercer dans la maltraitance, ou qu'elle doit s'exercer dans la cruauté, d'accord, ou dans le sadisme, parce que ça n'est pas le Dieu de la Bible. Mais nous avons vu également que, personnellement, nous n'avons pas créé de fracture dans la société. Nous n'avons pas divisé la société. En revanche, les gens qui se revendiquent de cette théorie ou de cette philosophie, eux estiment qu'il y a des clans à faire et qu'il y a des groupes, notamment ceux qui ne pensent pas comme eux, qui doivent être combattus parce que leur façon de penser est inacceptable ou d'agir est inacceptable. Donc ce clivage, cette fracture-là, eh bien, ce ne sont pas ceux qui mangent de la viande ou du poisson qui l'ont créé. D'accord ? Je ne vais pas mettre le feu à des magasins véganes. Mais ils estiment qu'il y a un clivage à faire. Bien, nous avons vu également la définition de l'antispécisme. C'est une lutte pour la libération animale, c'est ce qui nous est dit, et contre le spécisme, c'est-à-dire une idéologie, en tout cas il nous prête une idéologie, qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains, de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. Les cahiers antispécistes, qui font un peu office de Bible en la matière, nous disent, vous vous rendez compte, les animaux sont élevés et abattus pour nous fournir de la viande. Ils sont pêchés pour notre consommation. Ils sont utilisés comme modèle biologique pour nos intérêts scientifiques et chassés pour notre plaisir sportif. La lutte contre ces pratiques et contre l'idéologie qui les soutient est la tâche que se donne le mouvement de libération animale. Voilà de quoi nous parlons. D'accord ? Nous avions vu également qu'en tant que chrétien, notre référence, ce sont les Écritures. Que dit la Bible sur le sujet ? Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui doit prévaloir sur les autres livres, pas uniquement. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu beaucoup plus intelligent que l'être humain. Un Dieu qui est bon, qui est amour, et qui a créé l'être humain et le reste de la création que pour que tout fonctionne en harmonie. Et nous allons voir aujourd'hui que Dieu est également le Dieu du plan B. Parce que quand les choses ne se passent pas comme il aurait souhaité qu'elles se passent, il pourvoit à la solution pour que finalement sa volonté soit faite et que tout ça se fasse conformément à son identité, à sa nature. Bien. Le spécisme, donc, je l'ai dit, c'est un concept qui a été inventé. Donc, le spécisme, vous avez compris que c'est, pour eux, ce que nous sommes. Nous sommes des spécistes. Et comme c'est mal, il faut lutter contre cela. Bien. Nous avons vu également, donc, que cette... je vous lis ce que dit Michel Onfray, notamment. Les fondations ontologiques de l'antispécisme sont radicalement anti-monothéistes. Et il a synthétisé de la sorte la pensée. C'est-à-dire que ça n'est pas une lutte, mais on va le voir plus en détail aujourd'hui, pour la libération de la cause animale. C'est une lutte contre Dieu. C'est une des manières, il y en a d'autres dans notre société, un des symptômes de la rébellion contre ce que Dieu dit. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais c'est une vision chrétienne des choses. Non, parce que nous avons vu que c'est une lutte anti-monothéisme, c'est-à-dire que ça pourrait être la même chose contre ce que pensent les juifs, et ça pourrait être la même chose contre ce que pensent les musulmans, qui considèrent que, oui, l'être humain n'est pas à l'égalité avec l'animal, que non, il n'est pas un animal comme les autres. Nous avons vu également que, assez curieusement, de manière assez intéressante, les antispécistes disent, mais c'est finalement, on se retrouverait plus dans les philosophies orientales, hindouistes, qui prônent une multitude de dieux, et qui nous disent qu'il faut respecter ce souffle de vie qui est commun à toute la création. Et on a parlé de ce souffle de vie la semaine dernière, en disant que lorsque Dieu a créé l'homme, nous avons parcouru la Genèse ensemble, lorsque Dieu a créé l'homme et le reste de la création, oui, il a donné aux animaux et à l'homme un nefesh en hébreu, c'est-à-dire, traduit par souffle de vie, c'est-à-dire une âme. Mais nous avons vu que l'homme s'est vu conférer quelque chose de plus qui est une neshama, que n'a pas le reste de la création, et notamment les animaux, c'est-à-dire un esprit. Et nous avons vu également, dans 1 Thessaloniciens 5:23, que l'être humain est un être en trois parties. Il est un esprit, et cela, ça le rend unique du reste de la création. Il a une âme, une capacité, une intelligence, de raisonnement, de volonté, des émotions, des exactes, qui, dans une moindre mesure peut-être, sont partagées par la race animale. Hein, ceux qui ont des chiens disent souvent, c'est extraordinaire, on dirait qu'il essaie de me parler, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Ouais, c'est fort possible. Il te dit, j'ai faim. J'ai besoin de sortir. Mais il n'a pas de neshama. Et il vit dans un corps, et en cela, eh bien, nous partageons effectivement la chair avec le reste de la création. Bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit d'autres choses ensemble à ce sujet, qui sont peut-être des... Vous savez, une fois encore, le but n'est pas de dire « voilà comment tu dois penser ». Voilà, je te donne du tout cuit, c'est le cas de le dire. Tu n'as plus qu'à penser, du prêt à penser. Voilà, je mets ça dans la boîte crânienne et c'est comme ça que... Non, le but, c'est de vous donner des pistes de réflexion, que nous regardions ensemble les Écritures, que vous vous mettiez devant Dieu, quand vous allez bénir votre repas à midi tout à l'heure, et que vous disiez « Seigneur, voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste ? En tant que chrétien, quand je vois les images de ce qui se passe dans les abattoirs, je dis ça n'est pas juste. parce que pour le profit, et uniquement pour le profit, on en vient à sortir de ce qui est moralement acceptable. Or, ce mot « moral », c'est ça, c'est ce mot-là qui n'est pas accepté aujourd'hui. Nous avons vu que les antispécistes, notamment leur fondateur, à savoir Singer et Ryder, disaient qu'ils poussaient le raisonnement dénué de toute morale jusqu'à son extrême. Et c'est bien là qu'est le problème. C'est bien là qu'est le problème. Regarde avec moi dans Romains chapitre 12. Il y a une phrase de Rabelais que j'aime bien. Il dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Et « science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Et c'est notamment cette phrase qui a fondé tout ce qui concerne la bioéthique aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Est-ce que vous regardez les infos? Est-ce que vous savez qu'en dehors de l'Église, il se passe des choses? Est-ce qu'on peut accepter, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut se poser la question, et pas dire « Ah non, ce n'est pas bien. Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu dis ce que tu dis? Si tu dis « Il n'est pas normal que des femmes portent le bébé d'autrui aujourd'hui ou qu'elles vendent ensuite leur bébé à quelqu'un d'autre », si tu dis « Ça n'est pas normal », pourquoi? Parce que les gens vont te poser la question. Oui, mais Dieu n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te pousse dans le raisonnement. Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Dans les Écritures. Allons chercher ce qui est écrit. Nous croyons pas dans la Bible, nous croyons dans le Dieu qui a écrit la Bible. Nous croyons dans le Dieu, c'est une personne en qui nous croyons, pas un dogme édité par je ne sais quelle organisation, quelle religion. Nous croyons en une personne. Et ces gens-là ne connaissent pas cette personne. Et parce qu'ils ne connaissent pas cette personne, eh bien, ils ont une fausse image de lui, et cette fausse image de lui font qu'ils le rejettent. Bien, Romains chapitre 12, il nous est dit versets 1 à 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, donc il écrit à des chrétiens, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans d'autres versions, un culte spirituel. Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc ça, beaucoup de chrétiens l'ont compris. « Ah, je ne dois pas me conformer au siècle présent. Je ne dois pas me conformer, surtout avec des jupes carrées au niveau des chevilles. Je ne suis pas pour qu'elles montent trop haut non plus. » Mais on se retrouve avec des gens qui vivent au 15e siècle, qui sont totalement déconnectés du monde dans lequel ils vivent parce qu'ils ne doivent pas se conformer au siècle présent. Mais il est dit ensuite, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » La volonté de Dieu, d'après ce verset, elle est bonne. Elle est agréable et elle est parfaite. Jésus a dit, mon joug, il n'est pas lourd, il est léger. Mais encore faut-il pouvoir discerner la volonté de Dieu. Or, beaucoup de gens pensent que pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut arrêter de penser. Et ça n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset ne dit pas abandonner l'intelligence, il est dit, ayez une intelligence qui soit renouvelée, qui soit transformé. Ce qui veut dire, il faut penser. Il faut réfléchir. Mais dans un cadre. De façon renouvelée. Avec l'éclairage du Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu. Dieu, c'est assez intéressant. Beaucoup de gens disent, ah mais toi, finalement c'est facile le christianisme, on arrête de penser, on est un mouton, on suit. C'est tout l'inverse. C'est toi le mouton. Et j'avais même pas fait cette blague par rapport à mon sujet du jour, mais c'est assez marrant, je dois dire. Non, au contraire, Dieu veut nous faire penser. Mais quelqu'un qui s'autorise à penser sans qu'il y ait un cadre, on va dire moral, ou le cadre des Écritures autour, aboutit. Vous savez, les nazis ils avaient toute une façon de penser derrière leurs actes. Ils pouvaient tout à fait vous expliquer rationnellement pour quelles raisons les camps de la mort devaient avoir lieu, pour quelles raisons les expériences devaient avoir lieu dans les laboratoires sur les Juifs. Ils pouvaient vous l'expliquer rationnellement. Il y avait tout un raisonnement derrière. Donc si on se place, beaucoup de gens disent, mais souvenons-nous que Hitler a été élu démocratiquement. Donc si tu te places uniquement sur le terrain du mécanisme, du raisonnement, sans qu'il y ait de barrière fixée par Dieu à ce niveau-là, eh bien tu vas aller dans le fossé du raisonnement. Donc c'est bien clair ici que Dieu ne veut pas qu'on arrête de penser. En revanche, il veut que notre intelligence soit utilisée de façon transformée et renouvelée. Amen. Bien. Regardez, on a vu la dernière fois, on avait terminé par 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Et c'était au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. On avait commencé au verset 35, on avait fini au verset 50. Et nous avions parlé de la résurrection des morts, résurrection qui nous concerne a priori. Maintenant, je suis ouvert à la discussion, mais dans les Écritures, je ne vois qu'elle ne concerne que les êtres humains. Et que cette résurrection des morts, Paul est en train d'expliquer ici le principe du corps. Et il dit, en substance, que en tant qu'esprit, nous ne sommes pas des gaz flottant dans l'atmosphère, mais qu'il y a une réalité physique qui, pour l'instant, est imperceptible aux cinq sens humains. D'accord ? La couleur, par exemple, la lumière. Il a fallu attendre des avancées scientifiques pour être capable de décomposer un spectre lumineux et de comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour les choses spirituelles. Peut-être qu'un jour, la science permettra de les montrer, de les expliquer. Mais quoi qu'il en soit, Paul, dès l'Antiquité, nous dit ici, il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Le monde naturel, qui inclut également en grec le psychisme, c'est-à-dire la faculté de penser. Ça fait partie de ce que la Bible appelle la chair. La chair, ça n'est pas uniquement ta peau, tes organes, c'est également une façon de penser qui serait déconnectée de Dieu. Mais il y a une façon de penser, on l'a vu dans Romains 12, et tout un monde qui est un monde spirituel, c'est-à-dire où la vie de Dieu se manifeste. Et il nous dit au verset 50, pour terminer cette explication, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang. » On a vu un autre verset qui nous disait que l'âme se trouve dans le sang. Donc, on pourrait dire ici, la chair et l'âme ne peuvent pas hériter en tant que telles le royaume de Dieu. Ma question est, si cette doctrine de l'antispécisme rabaisse l'être humain au seul niveau de la chair et de l'âme, en éliminant tout ce qui est spirituel, alors cette doctrine me pousse vers quelque chose qui me rend incapable d'hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous suivez mon raisonnement ? C'est écrit ici, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ma question est, dans ce cas-là, pourquoi voulez-vous me pousser à considérer l'homme, qui est le sommet de la création divine, comme quelque chose, vers quelque chose qui l'empêchera d'hériter le royaume de Dieu ? Maintenant, ce que je vous dis là, et ce qu'on voit aujourd'hui dans les Écritures, je suis certain que 99,9% des antispécistes ne le savent pas. Pour eux, ils sont certains de défendre uniquement la cause animale, c'est leur truc. Et en tant que tel, c'est louable. Il y a peut-être des choses à améliorer sur la planète où on vit. Mais se rendent-ils compte, et c'est ma question, qu'il y a quelque chose de spirituel derrière ? Ils nous poussent à considérer l'homme comme uniquement fait de chair et de sang, comme n'importe quel canard ou saumon. Sauf que ces choses-là ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Bien. J'ai une autre question. Je vous ai dit que l'antispécisme, c'était quelque chose qui visait à lutter contre tous les traitements qu'on inflige aux animaux et qu'on n'accepterait pas d'infliger à des êtres humains. Il y a donc une volonté de mettre sur un pied d'égalité humain et animal. Et on commence à lire aujourd'hui dans certains magazines, l'Obs notamment, ça revient régulièrement, une réflexion sur les droits des animaux. Il n'y a pas si longtemps encore, on a voulu intégrer dans le code civil certaines choses. Aujourd'hui, juridiquement, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'heure où je vous parle, mais juridiquement, un animal est considéré comme ce qu'on appelle un meuble meublant, c'est-à-dire comme une chaise ou un stylo.
Ça change.
C'est en train de changer. Bon. Mais jusqu'où est-ce que ça va changer? Parce que si l'on met l'homme et l'animal sur un pied d'égalité, alors pour quelle raison voulez-vous que l'être humain, ce vilain oppresseur, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui s'arroge le droit de régner en maître sur cette planète alors qu'il n'en a pas le droit, pourquoi donc son système juridique devrait-il prévaloir sur le reste? Ne faudrait-il pas l'adapter pour que humains et animaux aient les mêmes droits? Et je vais pousser le raisonnement. Si humains et animaux ont les mêmes droits, se pose également, entre parenthèses, la question des devoirs, parce que droit et devoir, ça va ensemble. Et j'ai des droits parce que j'ai des devoirs également. Vais-je pouvoir imposer ces mêmes devoirs aux animaux? Mais, ouais, fais ton lit, me dit-on. Mais, regarde avec moi dans Lévitique au chapitre 18. Lévitique au chapitre 18, verset 1 jusqu'à... On va commencer par 1 et 4. De 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras... » Donc voilà la première chose, la pierre angulaire de tout le reste. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Tout le reste découle de ça. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. C'est-à-dire, vous ne vous conformerez pas au siècle présent. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Donc, il va leur parler ici de certaines choses qui se pratiquaient couramment en Égypte, et qui se pratiquaient couramment à Canaan lorsqu'ils y sont arrivés. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous avons ensuite, au chapitre 18, tout un chapitre sur la sexualité. Et vous verrez notamment au verset... Il faut savoir qu'au verset 21, ça allait très loin, parce que ça terminait par des sacrifices d'enfants. Et si qu'il livrait au dieu Moloch, et si ces sacrifices d'enfants sont mentionnés ici dans un chapitre qui a trait à la sexualité, c'est que ça allait avec. Donc quand on voit des choses sur ce qui se passait en Égypte et les vilains égyptiens qui fouettaient les Hébreux, oui, mais ça ne s'arrêtait pas là. Ils vivaient dans un monde d'une dépravation que nous aurions peine à imaginer aujourd'hui. Quand ils sont arrivés en Canaan, Dieu leur a dit « Attention !» Vous allez voir certaines choses et il ne s'agit pas de se mêler à la culture locale. Ok ? Et il dit ensuite, au verset 23, « Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. » Verset 24, « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. » Et quand vous lisez la suite, vous voyez qu'il dit que le pays... a fini par vomir ses habitants. Donc, ma question est, et puisqu'on est, on parle de réflexion, on imagine certaines choses, on pousse le raisonnement jusqu'au bout, comme ils le font, qu'est-ce qui empêcherait cela? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, bien entendu, l'animal est consentant. Je ne le ferai pas, puisque je n'ai pas le droit de le faire à un animal, ce que je ne ferai pas à un être humain. On reconnaît le viol dans notre culture comme quelque chose de criminel. Donc, ça serait la même chose vis-à-vis des animaux. Mais puisque je vais chercher l'âme de l'animal, sa réflexion, son intelligence, son discours, son dialogue, son consentement peut-être. Vous savez, si c'était uniquement de la théorie, il n'aurait pas dit aux Hébreux à l'époque, vous avez vécu dans cette culture-là et vous allez croiser des pays qui vivent également dans cette culture-là. Bon, je fais qu'évoquer ça. Romains chapitre 1. Faisons quelques bons dans le futur par rapport à ce qui s'est passé en Égypte et à Canaan. Romains chapitre 1, nous voilà dans l'Antiquité, versets 18 à 25. Il nous est dit, la colère de Dieu, alors, étant précisé quand même que toute l'épître aux Romains a pour but de mettre l'accent sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu, et sur le fait que malgré sa faillite, l'être humain, tout ce dans quoi il avait fondé ses espoirs, etc., s'écroule, ça ne tient pas face à Dieu, mais que Dieu, la grâce de Dieu, est manifestée envers l'humanité. Le thème de l'Épître aux Romains, c'est la justification, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu pour nous. Mais il y a une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, c'est que Dieu est juge. Et que Dieu estime que certaines choses sont bien, parce qu'elles sont conformes à sa volonté, et que d'autres sont mal, parce qu'elles sortent de sa volonté. Mais nous avons vu que Dieu est bon, qu'il est gracieux, qu'il est miséricordieux, que sa volonté est parfaite et agréable. C'est ce Dieu-là dont on parle. Et il nous a dit au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi ? Parce que verset 19, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout être humain a cette conscience de Dieu à un moment ou à un autre. Et que si les gens n'ont pas la révélation de Jésus, ne vont pas plus loin avec Dieu, c'est parce que c'est un choix de leur part. N'importe quelle personne aux quatre coins de cette planète, au fond de la forêt amazonienne, ou sur une plage dans les îles, ou n'importe où, au pôle Nord, qui regarde la création, la Bible nous dit l'être humain est ainsi fait qu'à un moment donné, il va se poser des questions. Sur le pourquoi, sur le d'où ça vient, sur le comment, sur qui est au-dessus. Et plus même les scientifiques creusent, et se disent à un moment donné, c'est pas possible, c'est trop parfait, c'est trop énorme. Mais, il nous est dit, verset 21, ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais, écoutez bien, ils se sont égarés dans leurs pensées. Conséquence, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a un raisonnement qui est très intéressant. Il nous est dit, tout être humain, à un moment donné, est face à un choix. Je poursuis ma quête de ce Dieu que je découvre dans la création, où je décide de lui fermer la porte. Si je décide de lui fermer la porte, alors, il nous est dit, je refuse de le glorifier. Si je refuse de le glorifier, parce que l'être humain est un être religieux, qu'on le veuille ou non, est un être spirituel, qu'on le veuille ou non, est un être qui aspire à savoir ce qu'il y a, et qui a besoin d'exprimer cette dévotion, alors il va l'orienter sur les mauvaises choses. Et il va finir par adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Les animaux, mais également l'homme. L'athéisme, dans son degré extrême, ou même dans sa nature même, c'est une adoration de l'homme. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous dit... Ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous réécouterez le message de la semaine dernière, mais vous vous souvenez, le raisonnement notamment, je crois que c'était Peter, son prénom, Peter Singer, qui comparait, sans aucune morale, de manière purement mécanique, le fait de tuer un cheval et de tuer un bébé, ou le petit d'une vache, ou de mettre une gifle à un cheval et de mettre une gifle à un bébé. Et qui disait que dans certains cas, ben, c'est moins grave de porter atteinte à un être humain que de porter atteinte à un animal. Et ça m'a fait penser à ce verset où il nous dit parce qu'ils ont refusé d'aller sur le chemin de Dieu, ils se sont égarés dans leurs pensées. Oui, la pensée sans Dieu peut finir par t'égarer. Et parce qu'ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Dites-moi, on parle de gens qui ont des doctorats. Donc du point de vue humain, on pourrait dire que ces gens-là ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des abrutis. Et pourtant la Bible nous dit c'est un cœur sans intelligence. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. L'intelligence pour Dieu, la véritable intelligence, passe par lui. Vous comprenez ça ? Et donc, regardez avec moi dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Proverbe 9, 10, je vous le dis simplement, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu Saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. 1 Jean chapitre 5. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu que mon associé qui est juif pratiquant a une expression, alors elle est un peu vieillissante maintenant, il n'est pas très fort en technologie, en électronique, mais il dit quand Moïse est redescendu du Sinaï, après avoir passé tant de jours face à face avec Dieu, le gars, c'était un Pentium. Non, Pentium, c'est un... Peut-être qu'ils ont ressorti Pierre, je ne sais pas, de nouvelles. Non, Pentium, c'était un microprocesseur qui, à l'époque où il est sorti, c'était un truc super puissant, etc. Et je lui dis, tu sais, Isaac, c'est... Pentium, c'est... c'est plus trop d'actualité, quoi. Mais l'idée, c'est que je suis convaincu que plus tu es en contact avec Dieu, plus ton cerveau réfléchit rapidement. Plus tu es capable d'utiliser des zones de ton cerveau que tu n'utilisais pas jusqu'à présent. Et c'est pour ça, parce qu'on a tendance à lire ces versets comme si c'était des vieux chants du Moyen-Âge, en disant « Oh, le commencement de la sagesse !» Et ça s'opposerait à la science, ou ça s'opposerait à la médecine, ou ça s'opposerait à la technologie. Mais c'est exactement l'inverse. C'est plus tu vas vers Dieu, plus tu vas être rendu capable de découvrir des trucs qui vont servir l'humanité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes découvertes qui aujourd'hui servent l'humanité, qui ont été découvertes par des chrétiens ou par des juifs. Énormément. Pratiquant. Bon. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi ? Parce que si l'être humain ne se tourne pas vers Dieu, il va se tourner vers les idoles, c'est automatique. Automatique. Et de quelles idoles est-ce qu'on parle ? Pas seulement de l'idole des jeunes. Plus seulement de l'idole des jeunes. Mais on a vu tout à l'heure, l'homme, les quadrupèdes, les reptiles, les animaux... Voilà les idoles vers lesquelles on va finir par se tourner. Vous comprenez ce qu'il y a derrière l'antispécisme, en ouvrant les Écritures ? Se vantant d'être sage, il poursuit le raisonnement dans Romains. Donc, ils ont refusé Dieu, leurs pensées se sont égarées, leur cœur a été plongé dans les ténèbres, mais les gars, ils continuent de dire « Nous sommes sages, c'est nous les sages, c'est nous les sages. » Et se vantant d'être sages, sont devenus fous, complètement fous. Voilà ce que Dieu dit de ces doctrines. Et ils ont changé la gloire de Dieu, ou échangé la gloire de Dieu pour des images. Et je trouve assez intéressant, depuis que les écrans existent, de voir l'attraction qu'ils exercent sur l'humanité. Les images, les images, les images. Donc on finira par diviniser quelque chose, si on ne rend pas gloire à Dieu. Soi-même, l'homme, l'animal, peu importe, et ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc en vérité, la question n'est pas de savoir si les spécistes que nous sommes valorisent l'homme plus que l'animal, parce que ce n'est pas le débat, c'est un faux débat de vouloir vous amener sur ce terrain-là. La question est de dire qui est Dieu pour toi et comment le considères-tu. C'est ça le vrai débat. Parce que si nous acceptons de croire dans cette Bible, c'est parce que nous savons qui en est l'auteur. Si tu ne sais pas qui en est l'auteur, tu vas le rejeter et tu rejetteras avec lui sa parole. Mais si tu connais l'auteur, si tu sais ce qu'il a fait pour toi, l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde, alors tu n'auras pas de mal à croire ce qui est écrit. Vous comprenez ? Donc la question, ce n'est pas homme versus animal, c'est est-ce que l'homme adore et respecte Dieu plus que tout le reste ? Si la réponse est non, alors d'une façon ou d'une autre, ça finira dans l'idolâtrie. Ok ? La conséquence, vous l'avez lu dans Romains comme moi, avant on l'a peut-être pas lu d'ailleurs, dans Romains, il nous est dit, regardez de nouveau, Romains chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi, Romains 2, 24, non, Romains 1, 24, excusez-moi, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est vrai. Quand on prend le temps de décortiquer les Écritures, c'est vraiment intéressant. Quelle est la conséquence de tout ça ? Tu dis, bon d'accord, l'idolâtrie, le truc. Non, la conséquence c'est quoi ? Ça finit toujours dans l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et vous pourrez lire versets 26 et suivants à quoi Dieu les a livrés. Donc cette histoire de raisonnement sur jusqu'où on va avec les animaux, c'est pas de la théorie. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Canaan, ça s'est passé dans la Rome antique, à l'époque où Paul écrivait, et c'est en train d'arriver tout doucement pour se passer aujourd'hui. L'avilissement de l'homme, la déshumanisation de l'homme. Parce que c'est de ça dont il s'agit. La rétrogradation de l'homme au rang du simple animal. Bon. Quelques points pour terminer. Premièrement, j'ai fait une étude rapide sur notamment la question de la manière dont les juifs abattent les animaux qui vont leur servir de viande. Ça porte un nom que j'ai oublié, mais il y a un grand débat depuis quelques années sur la question de savoir s'il faut interdire cette façon de faire ou pas, à savoir qu'il saigne l'animal, il le laisse se vider de son sang. Et d'ailleurs, je précise que la viande cachère est une viande qui est soumise à énormément d'examens de la part des rabbins qui sont spécialisés là-dedans avant d'être mise sur le marché. Si l'animal a un défaut quelconque, etc., on ne le consomme pas. Et donc se pose la question de dire est-ce que c'est humain, pas humain, et cruel, pas cruel, etc., etc. Bon, certainement moins cruel que d'abattre avec un pistolet compresseur, avec un pieu, 200 vaches les unes à la suite des autres, qui ont été mises en prison, complètement stressées, etc., etc. Bon. Mais vous regarderez sur Internet, c'est assez intéressant, sur la question de la Bible et le Talmud, c'est-à-dire l'interprétation rabbinique de la Bible. Ils abordent la question de la souffrance animale et du respect qui est dû à la création. Donc, quand on dit dans la Genèse, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur la création, ça ne veut pas dire pour qu'il maltraite la création. D'ailleurs, c'est toute la... Vous savez, quand on parle d'autorité dans l'Église, tout le monde pense à la maîtresse qui vous a maltraité, au patron qui vous maltraite, aux parents qui vous tabassent. Et c'est pour ça qu'on a tous au petit chef qui abuse de vous, etc., qui vous met la pression au boulot. Et quand on parle d'autorité, on sent que tout de suite ça se crispe parce qu'on a une mauvaise image et une mauvaise définition de ce que c'est. Mais quand vous avez un leader que vous respectez, vous êtes prêt à suivre les ordres qu'il vous donne parce que vous savez qu'il vous mène sur le bon chemin. Je ne parle pas que dans l'Église. Des gens qui vous inspirent, si vous faites du sport par exemple, vous avez un coach ou un capitaine d'équipe, vous dites, je sais qu'avec lui, on est sur la... Regardez Deschamps par exemple avec l'équipe de France, c'est exactement pour ça que la France a gagné. Il y a eu un rétablissement de l'autorité. Mais pas n'importe laquelle. Il y avait une façon de faire. Et donc Bible et Talmud abordent la souffrance animale, le respect dû à la création. Deuxièmement, quelque chose d'assez intéressant. Vous vous souvenez, on a vu dans la Genèse que au départ, quand Dieu a créé les animaux, puis a créé l'être humain, il n'était question ni pour l'un ni pour l'autre de manger de la viande. Oui. Les animaux devaient manger l'herbe verte et les humains devaient manger les herbes porteuses de semences, les fruits, etc., etc. Et donc, c'est ce qui fait dire à certains, « Ah, ben tu vois, si on veut respecter la volonté de Dieu, il ne faut plus manger de viande, puisque nous sommes en train de porter atteinte. Évidemment, pour manger un animal, il faut le tuer. » Et normalement, quand on tue un animal, c'est pour le manger. J'ai entendu ça d'un chasseur une fois. Hmm ? Tu tues, tu manges. Mais, regardez dans Genèse chapitre 9, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'après le déluge, versets 3 et 4, après le déluge, Dieu, je vous lis juste le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc il dit exactement la même chose que ce qu'il a dit à Adam et Ève. D'accord ? Il est béni, etc. Mais verset 3, il dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que malheureusement, sur Terre, le plan A de Dieu n'a pas été respecté par l'être humain. Mais ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences. Et Dieu a adapté, dans la faiblesse de l'être humain, il a adapté ce qu'il lui avait dit de faire ou de ne pas faire, etc., pour, en attendant la rédemption totale, c'est-à-dire ben, notamment le millénium et ensuite l'éternité avec Dieu. Nous sommes sur Terre. Les choses ne sont pas parfaites. Mais le sachant, Dieu a dit, « Ok, je vais adapter les instructions que je donne à l'être humain pour que ça se passe du mieux possible jusqu'à la rédemption totale. » D'accord ? Bien. Et il dit ici, « Vous pouvez manger tout. Je vous le donne pour nourriture. » Est-ce que c'est génial ? Non. Est-ce qu'on en a besoin ? Il faut croire que oui. Vous comprenez ça ? Donc je ne suis pas en train de dire je suis pour les abattoirs, je suis pour la viande carnée, je suis pour la pêche, je suis pour toutes ces choses-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'est-ce que Dieu dit. Il me connaît mieux que je me connais moi-même. Donc s'il dit à un moment donné il faut que l'humanité fasse de la sorte, que l'humanité fasse de la sorte. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le Dieu qui est derrière et que nous lui faisons confiance. Amen. Amen ? Bien. Je dis que c'était après la chute, c'était peut-être même avant, après le déluge, pardon, mais c'était peut-être même avant, parce que, je vous le cite simplement, dans Genèse chapitre 4, c'est l'offrande de Abel et de son frère Caïn. Et il nous est dit que Abel, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel, pour ceux que ça intéresse, Genèse chapitre 4, versets 3 et 4, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau, ce qui me fait dire qu'il élevait des animaux. Il les chassait pas uniquement, et de leur graisse. Et on sait que dans l'Ancien Testament, quand on faisait une offrande à Dieu, il fallait sacrifier un animal, il fallait en brûler une partie, il fallait en préserver une autre, et il fallait manger le reste. Les prêtres, les sacrificateurs mangeaient de ce qui était sacrifié sur l'autel. On parlait d'un régime carné. Il y a aussi des offrandes végétales, il y a des offrandes d'huile, il y a des offrandes de farine, il y a des offrandes de beaucoup de choses dans la loi. Hein. Mais ici, il nous est dit que Abel était non seulement berger, donc il élevait des troupeaux, mais qu'il les sacrifiait. Et il nous est, je ne pense pas, même si l'Écriture ne le précise pas, il faudrait étudier le Talmud à ce sujet, qu'il brûlait la totalité de la viande. Il devait en manger une partie. Donc quand je vous dis qu'il y a eu un changement de régime alimentaire chez l'homme, à un moment donné, il y en a eu un. Est-ce que Adam et Ève avaient besoin de manger de la viande ? Bah, manifestement pas. Ce qu'il y avait sur terre leur suffisait, tel que c'était à l'époque. Parce que la terre entière a été placée sous la malédiction. Donc, à un moment donné, vous dites aujourd'hui, c'est bizarre, on dirait que les fruits, les légumes, etc., ils sont moins riches que ce qu'ils étaient, même il y a encore 20 ans ou 30 ans. Bah, oui. Oui, c'est le cas. Il y a un appauvrissement. Mais il y a eu un changement de régime alimentaire, je vous dis, après le déluge et peut-être même après la chute. Une autre chose, des points pour alimenter votre réflexion. Quand vous lisez les chapitres 11 et les chapitres 65 d'Ésaïe, vous voyez l'image d'une terre idéale. Vous connaissez, hein, l'enfant mettra la main dans la spique, le lion, le loup dormira à côté de l'agneau, etc., etc. C'est une terre qui est idéale. Est-ce que le loup dort à côté de l'agneau actuellement ? Ben, pas longtemps. Est-ce que les enfants mettent la main dans un nid de vipères ou d'aspic ? Vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Et pourtant, la Bible nous dit, ça sera le cas un jour. La création sera restaurée telle qu'elle avait été initialement. Oui, seulement ça, c'est à venir, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et j'ai le sentiment, en écoutant tout cela, qu'on essaye, par la force de l'homme, par des raisonnements, des doctrines, de restaurer une terre paradisiaque, une terre idéale. Mais ça ne marche pas en dehors de Jésus. C'est pas possible. Et j'ai pas la photo, mais vous regarderez. Il y a un mur des Nations Unies. L'ONU a un de ces murs sur lequel il est écrit quelque chose qui se trouve dans Ésaïe chapitre 2. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs charrues. Vous connaissez ce passage, hein, etc. Et effectivement, il y a une statue où on voit un gars qui est en train de transformer une épée en soc. Donc une pièce nécessaire aux agriculteurs. Et l'ONU, sans citer le fait que ça vient de Ésaïe chapitre 2, donc veut virer la Bible et garder uniquement le principe en disant « mais c'est grâce aux Nations Unies que ça va être possible ». Bon, je ne vais pas les décourager, mais c'est pas tip-top encore. Hein, mais ça vous montre la pensée qui est derrière. L'humanisme va permettre d'accomplir ce que nous voyons dans le messianisme. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas en cassant des boucheries que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas en créant des institutions internationales. Est-ce qu'elles sont mauvaises en soi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais quel est l'espoir que l'on fonde dedans ? Où place-t-on notre espoir ? Bien. Et puis, une dernière chose. Dans le psaume chapitre 2, et je dois dire que c'est quelque chose que je lis quand je sens que les infos commencent à... D'abord, j'éteins les infos quand je sens que ça commence à me bouleverser un peu trop, ou à m'énerver un peu trop, ou à me faire peur. Je dis « Ok, stop !» On éteint. Et je retourne vers le psaume chapitre 2. En attendant, je vous fais juste une parenthèse. Quand vous lisez Romains chapitre 1, comme on l'a lu tout à l'heure, versets 18 et suivants, vous voyez que... Donc il dit qu'ils sont inexcusables, etc., etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au chapitre 2, il dit « Ok, on a montré quel était l'état de l'humanité sans Dieu. C'est bon. Maintenant, toi qui juges, tu es toi aussi inexcusable. Parce que ce que tu juges, tu le pratiques également. Mais normalement, je ne suis pas antispéciste, peut-être, mais quand tu juges autrui, tu ne peux pas dire que tu es infaillible dans ce que tu fais. Donc si tu optes pour la voie du jugement et de la condamnation, parce que les gens ne pensent pas ce que tu penses, même si nous considérons qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils sont dans l'erreur. Si tu entres sur cette voie-là, la Bible nous dit que tu te condamnes toi-même. Parce que toi aussi, tu es répréhensible sur d'autres trucs. Et tout l'encouragement de Paul, ça n'est pas l'inquisition. L'encouragement de Paul, au contraire, c'est la grâce. Il dit tout le monde a péché et tout le monde est passé à côté de la gloire de Dieu, a été privé de la gloire de Dieu. Mais ensuite, il explique le plan du salut. Et il explique également l'opposition entre la loi et la grâce. Et tout Romain, ça a pour but de faire un contraste entre on ne connaît pas Dieu, alors voilà comment on agit, ou bien on connaît le vrai Dieu, et voilà la transformation, voilà le changement. Donc, le but de tout ça, c'est quoi ? Ça n'est pas de créer des clivages, où dès qu'on entend quelqu'un dire, tu sais, moi, je suis plutôt pour la cause animale, tout de suite, on va se dire, oh là là, papa, alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça va aller jusqu'où cette... Non, c'est de dire, eh bien, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Dieu tel qu'il est. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que le but de tout ça, c'est une exhortation à dire, ok, on vit dans une société dans laquelle il y a des choses qui commencent à faire entendre leur voix et il est bon que nous les connaissions. Il est bon aussi qu'on les analyse à travers le filtre des Écritures. Que dit la Bible à ce sujet ? Et elle parle de tous les sujets. Vous ne doutiez pas, hein, qu'elle parlait de l'antispécisme. Mais ensuite, ça renvoie toujours vers, ok, qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Parce que ces choses-là ne sont pas des racines, ce sont des fruits. L'antispécisme n'est pas une racine, c'est un fruit. La théorie du genre n'est pas une racine, c'est un fruit. toutes ces choses-là sont des fruits qui ont la même racine commune, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu et une rébellion d'avec Dieu. Mais contre quel Dieu se rebellent-ils ? Nous devons leur faire connaître qui est Dieu véritablement. Psaume chapitre 2, je le lis quand je sens que je commence à m'inquiéter. Il est dit, donc c'est un psaume écrit par David, mais c'est un psaume messianique, prophétique, c'est-à-dire que David, vous savez, David, il n'était pas devant sa partition à dire, tiens, j'ai un bon flow là, il me faut un... Comment je peux le mettre en musique ce truc-là ? Non, il était prophète également. Et beaucoup de choses, il les voyait. Il voyait le futur. Il voyait un futur qui est pour nous aussi le futur. Il y a des choses qui sont de l'histoire, mais il y a des choses que les prophètes ont vues qui sont encore de l'avenir pour nous, qui ne sont pas encore accomplies. Il dit au psaume chapitre 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça vous rappelle rien ? C'est ça dont il s'agit, c'est de ça dont on parle. Ils estiment que Dieu est un oppresseur, que la Bible est une prison, ce sont des chaînes, et ils veulent s'en défaire. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse aujourd'hui, et c'est pas mon sujet, mais peut-être prochainement, mais les adeptes de la théorie du genre, c'est de dire, on ne supporte pas qu'on nous impose un genre. Quelle oppression ! Que d'oser m'obliger à être un homme ou une femme. Moi, je ne veux être ni l'un ni l'autre. Je veux être X. Je veux être capable de fluctuer, de naviguer ou de n'être rien du tout. Oui ? Je sais qu'il y a la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Je reçois des textos, il y a des messages. La Sainte Seine, la Sainte Seine. Ceux qui sont pressés, vous pouvez partir. Mais j'ai fini. C'est ça le truc. Brisons leurs chaînes, libérons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Etc., etc., etc. Donc quand je sens que le monde dans lequel je vis, il y a trop de tumulte, il y a trop d'agitation, il y a trop de ligues contre les choses de Dieu, on s'en occupe dans l'esprit, on prie, on lit les Écritures, on parle autour de nous, et moi je lis le psaume 2 et je dis, Seigneur, tu ris, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Parce que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et donc, nous allons prendre la Sainte Seine. Pasteur ? Tu as un micro ?
Conduit la Sainte Seine. À vrai dire, peut-être que certains se disent, c'est pas si important que cela, tu sais, cette histoire de viande, je mange de la viande, je mange pas de la viande, etc. Alors, hormis le fait qu'il est important que l'on sache d'après les Écritures, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont un régime alimentaire tellement déséquilibré qu'ils en tombent malades. Beaucoup de gens manquent de protéines, justement parce qu'ils ne consomment pas de la viande. Je ne vais pas revenir sur ce que dit Marc, mais je vais juste vous lire ce passage, parce qu'à vrai dire, quand on commence à faire attention, on se rend compte que c'est de partout. De partout, il y a une incitation à ne pas consommer de la viande. Alors, je n'ai pas l'action dans les boucheries, hein, mais écoutez, dans 1 Timothée chapitre 4, donc j'apprécie que Pasteur Marc ait abordé le sujet avec nous, parce qu'effectivement, la parole de Dieu parle de tout. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. Et expressément, ça veut dire que ça va être très clair ce qu'il va dire. On ne peut pas interpréter, on ne peut pas dire, ai-je vraiment compris? Non, c'est très clair. Que dans les derniers temps, donc les derniers jours, mais nous savons que ce sont les derniers temps d'une période, hein, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, c'est-à-dire que même à travers ces doctrines, il y a des chrétiens, celles-là ou d'autres, hein, qui vont tellement se donner dans cette lutte anti-viande, je dirais, qu'ils risquent d'oublier le Dieu qui les sert, qu'ils servent. Le Dieu qui existe. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il y a des enseignements, il y a des philosophies, il y a des idéologies qui sont directement inspirées par des démons qu'il me semble, sont tous ennemis de Dieu. Donc ce qu'ils vont dispenser comme enseignement a le but de conduire à cette rébellion justement. Des esprits vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc des gens qui prétendent tout savoir. Mais il est dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et l'idée, c'est que leur conscience a été marquée au fer rouge, c'est-à-dire cautérisée. C'est-à-dire que la conscience de ceux qui se prétendent des connaisseurs, des docteurs, des maîtres, des enseignants, leur propre conscience, elle est cautérisée, elle est devenue insensible. Et insensible notamment aux choses de Dieu. Et il est dit, ces faux docteurs-là prescrivent de ne pas se marier. Donc apparemment, dans les derniers temps, il y a... Et alors là, je vais vous dire que je vais passer le sujet. Je vais vous faire plaisir, je vais passer le sujet. Mais il existe, dans notre culture, dans notre société, un enseignement qui prescrit de ne pas se marier. Et qui crée des dégâts dans tout un pan de la société. C'est une chose de choisir de ne pas le faire, ou pour X raisons, mais que ce soit quelque chose qui soit considéré comme meilleur afin de servir Dieu, ça c'est, la Bible dit, ça fait partie des enseignements qui contribuent à mener une rébellion contre Dieu. Je pensais jaune, gilet jaune, pour me dire. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, bon. Mes pensées sont croisées. Et puis, il y a un autre faux enseignement qui dit de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, effectivement, quand on prend l'image globale, à la fin d'une certaine période, à la fin de la période dans laquelle nous sommes, il y a des enseignants qui se prétendent docteurs, connaisseurs, des maîtres, et qui disent, eh bien, vraiment, pour que vous viviez bien, eh bien, abstenez-vous de certains aliments. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que nous le prenions avec action de grâce, c'est-à-dire, un, qu'on dise merci pour ce que l'on mange, et puis deux, que l'on prie afin que, par la prière, l'aliment soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit rendu bon pour notre propre consommation et que nous ne tombions pas malades à cause de ce que nous mangeons. Donc cette histoire de ne pas manger de la viande et d'accuser les chasseurs, tuer pour tuer, c'est ridicule, c'est barbare. Tuer pour manger, avoir le plaisir de ramener quelque chose, eh ben, c'est pas interdit par la parole de Dieu. Et manger de la viande, c'est quelque chose, comme disait Marc, l'humanité a changé à cause du déluge, à cause du péché. Les besoins sont devenus différents. Et l'être humain, pour être en bonne santé, eh ben, il a besoin de viande. Et l'être humain est supérieur, est le summum de la création de Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Et comme dit Marc, c'est très intéressant de savoir comment les animaux sont tués selon la loi judaïque. C'est la seule manière où l'animal ne souffre pas. Donc, c'est-à-dire que nos abattoirs sont horribles pour les animaux. Et puis, la viande qui est donc consommée selon la tradition juive est vidée de son sang. Hein, donc, on ne mange pas d'animaux vivants, mais également, il y a des tas de conseils pour être en bonne santé. Et ce sont des conseils qui ont été donnés sous la loi, mais à vrai dire, qui sont bons, puisque ça touche notre corps, hein, cette partie de notre humanité, et qui sont encore bons. Donc voilà, et bien écoutez, en tout cas, on va se lever, prendre la Sainte Seine.
Je
ne
sais pas si le micro marche. Ouais. Oui, on peut la laisser dans 1 Corinthiens, au chapitre 11. Il nous est dit au verset 23, car Paul nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Je peux avoir les éléments, s'il vous plaît, venez, approchez. « Il prit du pain qui ressemblait à celui-là parce que c'était Pessah. » Et donc, on en sort hein, de la Pâque juive, là. Et donc, il a rendu grâce, et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ça aussi, ça fait partie de ce qui se passait à Pessah, de ce qui se passe toujours à Pessah, mais il dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mort du Seigneur qui est une bonne nouvelle. Parce que son corps a été brisé pour notre guérison et que nous soyons complets, et son sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Donc la mort de Jésus n'est pas une catastrophe, la mort de Jésus est une bonne nouvelle, c'était une volonté de sa part, et nous pouvons lui rendre grâce pour cela, et nous réclamons le bénéfice maintenant dans nos vies de ce que Jésus a permis à la croix à travers ces éléments qui sont des symboles de ce qu'il a fait pour nous. Amen.
Amen.
Amen. Donc si quiconque dit « Moi, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur » participe aux éléments. Personne ne devrait en rester écarté au motif qu'il n'a pas fait ceci ou qu'il a trop fait cela parce que ça n'est pas scripturaire. La Bible nous dit « Tu t'examines et tu manges. » Et si tu as quelque chose à mettre en règle avec Dieu, c'est le bon moment de le faire. Aussi simple que ça. Mais tu fais partie du corps de Christ, bienvenue à la Sainte Seine. Approchez-vous s'il vous plaît, donc on va rentrer par l'allée centrale, vous vous servez, vous repartez par le côté dont vous dépendez, s'il vous plaît. Approchez, et on peut avoir de la musique en même temps, s'il vous plaît. Je vais monter un peu le... Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Là-bas. Gloire à Dieu. Nous célébrons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Nous célébrons tout ce que le Seigneur a pour nous. Je vais entrer, vous voulez bien prier pour les éléments. Il est allumé. Vas-y, rends grâce au Seigneur.
Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que ce symbole est fort pour nos vies. Merci parce que nous voulons nous rappeler ce sacrifice. Sacrifice qui nous a libérés de tout péché et qui nous a réconciliés avec
Dieu. Bénissons, Seigneur.
Seigneur, merci encore de bénir
nom de Jésus.
Tous ceux qui prendront ce sacrifice. Seigneur, mon Dieu, recevoir encore de toi et être libéré de toute forme de culpabilité
amen.
Et de péché ce matin. Sois béni.
Amen.
Notre Dieu, tu es notre rédempteur.
Ouais.
Tu es notre sauveur. Tu es notre libérateur. Merci. Amen.
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 Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde a pu être servi, c'est bon ? Peut-être les serviteurs eux-mêmes. Merci. Et parlez à Dieu pendant que vous prenez ces éléments. Communiquez avec le Seigneur. Mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu as osé faire, ce que tu as accepté de faire. Personne ne t'a pris ta vie, tu l'as donnée. Combien nous te rendons grâce pour ça? Tu as tout sacrifié pour nous. Merci Seigneur, nous te bénissons. Mangeons ensemble. Nous sommes libres, libres de toute oppression, Seigneur, par ton sang et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Buvons ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. Vous donnez rendez-vous dans les groupes pour ceux qui prient, pour ceux qui vont à des groupes de maison pendant la semaine. Et pour les autres, je vous encourage à aller sur le site internet de l'Église. Voir tous les événements, pensez au changement de nom également. Envoyez un nom, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et pour les autres, à dimanche prochain. Bonne semaine.